Bonsoir à tous, il est 20h à Paris, 21h à Goma, et vous êtes bien sur RFI.
Véronique Rigolet.
Et à la une ce soir, les États-Unis soutiennent la décision d'Israël de couper les liens avec l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, priée de quitter Jérusalem dès ce jeudi. Un véritable coup porté à l'aide humanitaire à Gaza. La Maison-Blanche qui annonce le gel d'une partie des dépenses fédérales, potentiellement des milliers de milliards de dollars qui devront être réévalués à l'aune des priorités présidentielles. En Serbie, la démission du Premier ministre Miloš Vučević qui appelle à l'apaisement des tensions après 3 mois de manifestations contre la corruption. Enfin en France, la colère du Parti Socialiste après les propos du Premier ministre Bayrou sur la submersion migratoire à Mayotte. Le PS suspend les négociations sur le budget avec le gouvernement.
RFI.
Et pour commencer, la situation toujours extrêmement tendue en RDC, même si le calme semble être revenu ce soir à Goma, après une journée de violents combats suite à l'entrée dans la ville des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Dans la capitale du pays, Kinshasa, des manifestants ont attaqué plusieurs ambassades, dont celle du Rwanda, accusés par les autorités congolaises de leur avoir déclaré la guerre. Attaque également contre les ambassades de France, de Belgique ainsi que des États-Unis, pays critiqués pour leur inaction dans la crise actuelle. Comme Washington, Paris a de nouveau appelé aujourd'hui le Rwanda à mettre fin à cette offensive et à reprendre le dialogue avec Kinshasa. La Commission européenne a de son côté annoncé une aide humanitaire d'urgence de 60 millions d'euros en faveur des populations déplacées en RDC. Ce soir, les États-Unis soutiennent donc la décision israélienne de forcer l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, à quitter Jérusalem dès ce jeudi. Déclaration de l'ambassadrice américaine à l'ONU, Dorothy Shea, qui devant le Conseil de sécurité, a décrit une exagération des impacts de ces lois israéliennes qui, selon elle, ne mettront pas à l'arrêt toutes les opérations humanitaires. Affirmant d'ailleurs que l'UNRWA n'est pas et n'a jamais été la seule option pour l'aide humanitaire. L'ONU et de nombreux États membres répètent au contraire que l'agence est irremplaçable dans les territoires palestiniens et qu'elle est même la colonne vertébrale de l'aide humanitaire à Gaza, comme l'a fait de nouveau valoir aujourd'hui Philippe Lazzarini, le patron de l'UNRWA.
Depuis le début du cessez-le-feu, l'UNRWA a fait entrer 60% de la nourriture à Gaza à destination de plus d'un demi-million de personnes. La seule présence de l'agence garantit la stabilité dans un contexte d'incertitude. En Cisjordanie occupée, où la violence augmente, mettre fin aux opérations de l'UNRWA privera les réfugiés palestiniens de l'éducation et de soins. L'autorité palestinienne a fait savoir clairement qu'elle n'a ni les ressources financières, ni les capacités de compenser la fin de nos activités. Dans Jérusalem-Est, le gouvernement israélien a demandé à l'agence de vider ses locaux et cesser ses opérations d'ici jeudi. Eh bien, cela affectera 70 000 patients environ et plus de 1 000 étudiants. Les attaques incessantes contre l'UNRWA nuisent à la vie et au futur des Palestiniens dans tous les territoires occupés. Cela sape la confiance envers la communauté internationale et cela menace les perspectives de paix et de sécurité.
Philippe Lazzarini, le patron de l'UNRWA, propos recueillis par Ablat Junaidi. Et ce soir, le président Trump invite le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou mardi prochain à la Maison-Blanche. La Maison-Blanche qui a donc décidé de geler une partie des dépenses fédérales concernant notamment les programmes liés à la transition énergétique ou bien encore à l'aide internationale. Chaque ministère concerné est chargé d'en faire une revue d'ensemble afin de s'assurer de leur conformité avec les priorités présidentielles. On retrouve à Washington notre correspondant Guillaume Nodin. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Véronique.
Et c'est donc une vraie reprise en main des finances par l'administration Trump.
Oui, ce sont les prêts et autres bourses et subventions fédérales dont l'administration Trump suspend le versement. Et cela commence dès ce mardi à 17h, heure de Washington. Dans une note de 2 pages, le directeur intérimaire du Bureau de la gestion et du budget demande aux agences fédérales de vérifier si ces dépenses sont compatibles avec les décrets du président Trump mettant fin au programme de diversité, d'équité et d'inclusion et limitant les dépenses en matière d'énergie propre ou s'attaquant à ce qui est appelé l'idéologie woke à la Maison-Blanche. La décision exclut les dépenses versées directement aux individus, et notamment celles des assurances santé pour les plus démunis et les retraités, comme promis par le candidat Trump. Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, parle, lui, d'un coup de poignard au cœur pour les familles américaines. La décision va être contestée en justice par un certain nombre d'organisations et de collectivités locales. Selon la note, cela pourrait porter sur 3 000 milliards de dollars sur un budget de plus de 6 000 milliards, alors que l'auteur de la note parle, lui, d'un montant total de dépenses de 10 000 milliards. Ce n'est pas très clair. C'est aussi dans le but de sabrer dans les dépenses qu'est créé le département de l'efficacité gouvernementale confié à Elon Musk. Et en fin de semaine dernière déjà, le département d'État avait annoncé le gel de toute l'aide internationale hors aide humanitaire d'urgence.
Guillaume Nodin, en direct de Washington. Toujours aux États-Unis, des groupes de défense des droits des personnes transgenres annoncent qu'ils vont porter plainte également contre le dernier décret de Donald Trump qui promet de bannir l'idéologie transgenre de l'armée américaine. Cette action judiciaire serait en tout cas la toute première contre l'un des piliers de sa politique conservatrice envers le Pentagone. En Europe, en Serbie, le Premier ministre Miloš Vučević démissionne et appelle à l'apaisement des tensions après 3 mois de manifestations contre la corruption. Les étudiants, les lycéens, les employés, mais également les retraités manifestent depuis le 1er novembre dernier, presque chaque jour, depuis la mort de 15 personnes dans la chute de l'auvent en béton de la gare de Novi Sad qui venait d'être rénovée. Un puissant mouvement de contestation qui devrait se poursuivre malgré la démission du Premier ministre, qui ne devrait pas apaiser les tensions, explique Florent Marciac, co-directeur de l'Observatoire des Balkans à la Fondation Jean Jaurès.
Vučić a des leviers encore pour mobiliser la population par les canaux des médias qu'il contrôle. Et en face de lui, il a une opposition qui est extrêmement divisée. Et puis en face de ça, on a des réactions aussi des Occidentaux qui l'adoubent. Du point de vue américain, M. Vučić est un allié. Du point de vue des Européens, on a d'un côté l'Allemagne avec le chancelier Scholz qui est allé pour soutenir la signature du contrat de l'Union Européenne sur la question du lithium, qui fait l'objet de manifestations massives dans la société civile parce qu'encore une fois, il y a question de corruption, d'opacité, puis de protection environnementale, de normes. Donc il y a les Allemands qui passent sous silence dans toutes les déclarations les questions de démocratie parce qu'il y a des intérêts sur l'approvisionnement en matériaux stratégiques. Et puis la France, avec M. Macron, qui est allé également durant l'été en Serbie et qui a conclu la vente de Rafale, 12 Rafales. Donc les États membres ont des intérêts aussi qu'ils soignent avec M. Vučić. Ça explique le mutisme dans lequel ils se réfugient. Il faudra un engagement très fort de la part des citoyens serbes pour essayer de faire bouger les lignes, mais il a quand même beaucoup de ressorts et d'atouts dans sa main.
Des propos recueillis par Carlotta Morteo. En France, vive réaction politique après les propos du Premier ministre François Bayrou qui a évoqué un sentiment de submersion migratoire à Mayotte et dans d'autres départements. Après avoir jugé ces déclarations choquantes, le Parti socialiste a décidé ce soir de suspendre les négociations sur le budget avec le gouvernement, semant le doute sur une possible chute du cabinet Bayrou la semaine prochaine à l'occasion justement de ces discussions sur le budget. Aurélien Devernois.
Les murs de l'hémicycle ont tremblé. C'est la voix pleine de colère que le patron du groupe socialiste à l'Assemblée, Boris Vallaud, a interpellé François Bayrou.
Si vous gouvernez avec les préjugés de l'extrême droite, nous finirons gouvernés par l'extrême droite et vous en aurez été le complice.
Mais le Premier ministre assume.
Ce ne sont pas les mots, monsieur le président Vallaud, qui sont choquants. C'est les réalités.
Difficile de faire autrement pour François Bayrou sans risque de fâcher ses alliés de la droite républicaine et de braquer le Rassemblement National qui n'a pas encore fixé sa position sur la motion de censure attendue la semaine prochaine. Difficile aussi pour les socialistes de ne pas marquer le coup. Le PS se retire donc d'une réunion de négociation sur le budget.
Nos négociateurs qui devaient se rendre à Matignon ce soir ont décidé de ne pas s'y rendre suite à la séance des questions gouvernement et à la confirmation par le Premier ministre du fait qu'il assumait le terme de submersion.
Laurent Baumel, député socialiste.
Ça ne va pas dans le sens de la non-censure. Après, la décision de ne pas censurer, elle est aussi liée à d'autres facteurs. La volonté de donner un budget à la France, la volonté d'apporter un peu de stabilité.
Pas question en effet côté PS d'annoncer un revirement total et un vote de la motion de censure, alors que selon un sondage Odoxa, 90% de ses sympathisants veulent voir une coopération avec le gouvernement pour adoucir les mesures d'austérité annoncées.
Il est 20h10 à Paris, 19h10 en temps universel. C'est la fin de cette édition. Merci de votre écoute et restez bien sûr sur notre antenne.